On a tous déjà entendu ce son de démarrage.
Ah oui.
Pour des millions de personnes, c'était le premier contact avec un ordinateur, la porte d'entrée, tu sais, vers le monde numérique. Je parle bien sûr de Windows.
C'est clair.
Mais derrière ce nom, qui est devenu synonyme d'ordinateur, il y a une histoire complètement folle. Une véritable montagne russe, de succès éclatants, d'échecs spectaculaires, puis de décisions qui ont changé notre façon de vivre et de travailler.
Complètement.
Aujourd'hui, on se lance dans l'odyssée du système d'exploitation de Microsoft. Les sources qu'on a sous la main nous permettent de retracer tout ce parcours, depuis une simple interface graphique un peu bancale jusqu'au système complexe qu'on utilise aujourd'hui.
Mm-hmm.
Notre mission? De comprendre comment cette saga, avec ses hauts et ses bas, a non seulement façonné Microsoft, mais aussi notre interaction quotidienne avec la technologie.
Ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire-là, c'est que chaque version de Windows, ben, c'est pas juste une mise à jour technique. C'est le miroir d'une époque.
Exactement.
On y voit les ambitions de Microsoft, les limites de la techno du moment, puis surtout les attentes des utilisateurs. Et très vite, on va voir s'installer un cycle presque prévisible.
Le fameux cycle.
Le fameux cycle. Un succès suivi d'un raté puis d'un autre succès. Une alternance qui va devenir la marque de commerce de l'entreprise pendant des décennies.
D'accord. Alors, commençons par le tout début. On est en 1985, lancement de Windows 1.0.
Les débuts modestes.
Très modestes. Faut s'imaginer qu'à l'époque, ce n'est même pas un vrai système d'exploitation. C'est une sorte de couche de peinture graphique appliquée par-dessus le bon vieux MS-DOS et ses lignes de commande.
C'est ça.
C'était pas très convaincant.
Non, c'était un départ extrêmement modeste. Faut se rappeler du contexte. Apple, avec son Macintosh, avait déjà une avance immense dans le domaine des interfaces graphiques.
Ah oui, c'est vrai.
Leur système était fluide, il était intuitif. À côté, Windows 1.0 avait l'air d'un projet amateur. Microsoft était clairement en train de jouer au rattrapage et cherchait désespérément sa voie.
C'est fou de penser qu'il partait de si loin. Et j'ai lu un détail qui m'a fait sourire. Le nom original du projet, c'était Interface Manager.
Ouf! Ça sonne un peu comme un logiciel de comptabilité.
C'est ça. C'est le directeur marketing qui a insisté pour Windows, un nom beaucoup plus simple et visuel. Rétrospectivement, ça a été un coup de génie.
Un fleur exceptionnel, oui. Après un Windows 2.0 qui passe sans faire de vagues, on arrive en 1990 et là, les choses changent du tout au tout.
C'est l'arrivée de Windows 3.0. Et là, c'est le décollage.
Le premier vrai succès.
Oui, le premier vrai succès commercial de Microsoft dans ce domaine. Pour la première fois, on a une version capable de rivaliser sérieusement avec l'interface du Macintosh. Les chiffres sont éloquents. 10 millions de copies vendues avant même la sortie de la mise à jour 3.1. Le train était lancé.
Et en parallèle, une autre histoire se dessine, une qui va définir l'avenir de Microsoft dans le monde de l'entreprise, c'est la naissance de Windows NT.
Ah oui, NT.
C'est le résultat d'une collaboration avec IBM sur un projet nommé OS 2 qui a fini par imploser. Microsoft est parti avec une partie du code et l'a transformé en Windows NT pour New Technology.
Une technologie pensée pour les entreprises, donc.
Exact. C'est un système beaucoup plus robuste, pensé pour les serveurs, mais son accueil initial a été très froid. Sa complexité faisait peur, même aux développeurs les plus chevronnés.
On sent déjà la double personnalité de Microsoft se dessiner. Mais la vraie révolution pour le grand public, elle arrive en 1995. C'est l'année de Windows 95, nom de code Chicago.
Allons, on n'est plus dans le succès, on est dans le phénomène de société.
Absolument.
C'est le moment où Microsoft ne se contente plus de suivre Apple, mais prend une avance décisive. Avec Windows 95, ils cimentent leur domination quasi totale sur le marché des ordinateurs personnels pour les 15 années à venir. C'est le début de l'âge d'or.
Et ils lancent deux bombes qui vont tout changer. Le menu démarrer.
Le fameux menu démarrer.
Et le navigateur Internet Explorer. Aujourd'hui, ça semble banal, mais il faut comprendre l'impact à l'époque. Le menu démarrer, c'était la première fois que l'utilisateur moyen pouvait trouver ses programmes et ses fichiers facilement, sans se perdre.
Exactement. Ça a rendu l'ordinateur accessible à des millions de gens qui en avaient peur, tu sais.
C'est ça.
Puis intégrer Internet Explorer directement dans le système, c'est un coup de génie commercial. Et un coup bas, il faut le dire.
Oui, un peu.
En un seul geste, ils ont marginalisé Netscape, qui était le roi des navigateurs à l'époque, puis ils ont défini comment le monde entier allait accéder à Internet pour la décennie suivante. Une décision qui leur vaudra d'ailleurs de gros ennuis avec la justice.
Pour abus de position dominante, oui. Après ce triomphe, Microsoft est sur le toit du monde. On pourrait croire qu'ils sont invincibles. et la suite logique Windows 98, nom de code Memphis, vient confirmer cette domination.
Le succès commercial est encore plus fou. 15 millions d'unités vendues la première année.
C'est un système plus stable, entièrement 32 bits, avec un support natif pour l'USB qui commençait à peine à apparaître.
D'ailleurs, c'est au sujet de cette fameuse fonction USB qui est survenue l'une des anecdotes les plus savoureuses de l'histoire de la tech.
Ah oui, le plantage en direct. C'est une vidéo incroyable qu'on peut encore trouver en ligne.
C'est un classique.
On est en avril 1998. Pour la grande présentation à la presse, Bill Gates est sur scène, tout sourire. Il branche un scanner en disant « Voyez comme c'est facile avec le plug and play de Windows 98. » Et là,
le fameux écran bleu de la mort.
Le BSOD, en plein milieu de l'écran géant derrière lui. On pourrait pas écrire un meilleur gag.
Le public a éclaté de rire. Et même Bill Gates se dit improvisé en disant « C'est sûrement pour ça qu'on n'a pas encore sorti Windows 98. »
Un grand moment d'humilité forcée, disons.
Exactement. Et cette dualité entre le succès commercial et les pépins techniques, on la retrouve parfaitement en entrant dans le nouveau millénaire. Microsoft va jouer sur deux tableaux.
C'est ça. D'un côté, en 2000, ils sortent Windows 2000, nom de code Milan. Une version ultra solide pour les entreprises, basée sur le noyau NT.
Et c'est là qu'ils introduisent Active Directory?
Oui, pour ceux qui ne travaillent pas en TI, c'est essentiellement le grand bottin qui permet à une compagnie de gérer les accès de tous ses employés à tous ses ordinateurs. Une révolution pour la gestion de parc informatique.
Et c'est encore utilisé partout aujourd'hui. Mais de l'autre côté, pour le grand public, ils lancent la même année Windows ME pour Millennium. Et ça a été un flop monumental.
Ah, Windows ME.
Probablement l'un des pires systèmes jamais sortis.
J'en ai encore des cauchemars de celui-là. Mais pourquoi était-il si mauvais? C'était juste instable ou il y avait autre chose?
Ben, c'est un monstre de Frankenstein. Ils ont essayé de greffer de nouvelles fonctionnalités, comme la restauration du système, sur la vieille base fragile de Windows 98.
Et ça n'a pas tenu?
Pantoute. Le tout s'effondrait constamment, il plantait tout le temps, il était lent, il était incompatible avec plein de logiciels. La réputation de Microsoft auprès du grand public était en chute libre. Ils ont dû mettre les bouchées doubles pour faire oublier ce fiasco.
Ce qui nous amène à son successeur qui devait être le sauveur Windows XP, Whistler en 2001. Le XP qui vient du mot « expérience ».
Et malgré des débuts un peu difficiles...
Surtout côté sécurité au début.
Oui. Mais il est devenu une véritable légende. Le sommet de la montagne russe.
Une légende, c'est le mot juste.
Sa longévité, c'est un cas d'école. Il est resté le système le plus utilisé au monde pendant une décennie. Mais ce qui est fascinant, c'est de comprendre pourquoi. C'est pas seulement parce qu'il était bon après quelques mises à jour.
Non.
C'est surtout parce que son successeur a été un désastre. Des millions d'ordinateurs vendus pendant des années n'étaient tout simplement pas assez puissants pour faire tourner autre chose que XP.
Le support officiel n'a cessé qu'en 2014, 12 ans après sa sortie. C'est du jamais vu.
Incroyable!
Même aujourd'hui, le célèbre lecteur multimédia VLC le supporte encore, ce qui est fou. Mais voilà, après un succès aussi écrasant, la chute n'en est que plus dure. La descente de la montagne russe allait être brutale.
La transition a été terrible, oui. Les attentes pour le successeur, Windows Vista, Longhorn, étaient démesurées. Microsoft a promis une centaine de nouvelles fonctionnalités, une interface graphique révolutionnaire nommée Aero, avec des effets de transparence.
Le marketing était à son comble.
Totalement.
Et le résultat a été l'une des plus grandes déceptions de l'histoire de la technologie. Vista était incroyablement lourd.
Tellement lourd.
Il consommait tellement de ressources que même des ordinateurs neufs et puissants peinaient à le faire tourner correctement. Il était instable, plein de bugs. Le magazine PC World l'a même qualifié de « plus grande déception technologique de 2007 ».
Et pour couronner le tout, il y a eu un scandale qui a durablement terni l'image de Microsoft, l'affaire des autocollants Vista Cable et Vista Premium Ready.
Ah oui, c'était incroyable cette histoire. Microsoft avait créé des étiquettes pour les nouveaux PC pour indiquer s'ils pouvaient faire tourner Vista.
Mais un recours collectif a été lancé parce que les ordinateurs étiquetés Vista Cable n'étaient en réalité absolument pas assez puissants pour offrir une expérience acceptable.
Les gens achetaient un nouvel ordi puis ils se retrouvaient avec un système qui ramait.
Exact. Mais le pire, c'est ce qu'on a découvert pendant le procès. Un courriel interne a fuité.
Ah oui?
Il révélait que la direction de Microsoft avait sciemment abaissé les exigences minimales pour l'étiquette Vista Cable à la demande d'Intel pour les aider à écouler leur stock de processeurs moins performants.
Non.
Oui. En d'autres mots, ils savaient que l'expérience utilisateur serait mauvaise, mais ils l'ont fait pour des raisons commerciales. Ça a été une trahison pour des millions de consommateurs.
Clairement. Après ce désastre, la réputation de Microsoft était au plus bas. Ils devaient absolument se racheter. C'était la mission de Windows 7, Vienna, en 2009.
Et c'est là que notre fameux cycle « un bon, un mauvais » se confirme de manière spectaculaire. Après le raté de Vista, Windows 7 a été un succès éclatant.
C'était tout ce que Windows Vista aurait dû être.
Exactement. Plus rapide, plus stable, plus léger. L'accueil a été dithyrambique. En 6 mois, 100 millions de licences vendues. Un record absolu.
Wow!
On raconte même que le jour de la sortie de la version bêta, les serveurs de Microsoft ont complètement planté sous le poids de millions de téléchargements simultanés.
Tout le monde voulait oublier Vista. Donc, si on suit la logique, XP était bon, Vista mauvais, Windows 7 était excellent, le suivant devait logiquement être...
Mauvais.
Mauvais. Et ce fut le cas. Windows 8 en 2012 a été un flop monumental, pour reprendre les mots de notre source.
L'intention de départ était pas mauvaise, tu sais. Le monde changeait, les tablettes et les écrans tactiles arrivaient en force avec l'iPad. Microsoft voulait créer une interface unifiée qui fonctionnerait aussi bien avec une souris qu'avec les doigts.
Mais l'exécution?
L'exécution a été une catastrophe pour les centaines de millions d'utilisateurs de bureaux traditionnels.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont lancé cette interface métro avec ses grandes tuiles colorées et ils ont fait l'impensable. Ils ont enlevé le menu démarrer.
L'erreur fatale. Pour des millions de gens, c'était comme si on avait enlevé le volant d'une voiture. Personne ne savait comment s'en servir.
La frustration était immense. On a même vu un marché de logiciels tiers apparaître dont la seule fonction était de remettre un menu démarré dans Windows 8.
C'est fou quand on y pense. Microsoft a été forcé de faire un mea culpa avec Windows 8.1, une mise à jour qui a réintégré un semblant de bouton démarré pour calmer la grogne.
Et pour ne rien arranger...
Le contexte géopolitique s'en est mêlé. Après les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de la NSA, le gouvernement chinois, méfiant, a carrément interdit l'utilisation de Windows 8 dans toutes ses administrations. Un coup dur de plus.
Le creux de la vague, encore une fois. Ce qui nous amène à 2015 et à Windows 10, nom de code Threshold. Le grand retour à la raison.
Le retour du menu démarrer?
Au grand soulagement de la planète entière, mais c'est aussi le début d'une nouvelle approche. C'est la fin du vieux et mal-aimé Internet Explorer, remplacé par Microsoft Edge, et c'est l'arrivée de l'assistant vocal Cortana.
D'ailleurs, le nom Cortana, c'est un clin d'œil pour les gamers. Ça vient d'un personnage d'intelligence artificielle de la célèbre série de jeux vidéo de Microsoft, Halo.
Exact. Et à ce moment-là, Microsoft a fait une déclaration audacieuse. Windows 10 serait le dernier système d'exploitation de Microsoft.
L'idée était de le transformer en un service, une plateforme en constante évolution avec des mises à jour régulières, plutôt que de sortir une toute nouvelle version tous les 3 ans.
Une promesse qui, bien sûr...
n'a pas tenu bien longtemps. 6 ans plus tard, en 2021, surprise, Microsoft annonce Windows 11, Sun Valley.
Est-ce qu'on peut dire que Windows 11 a brisé le cycle? Il n'a pas été un échec, mais il n'a pas non plus suscité un enthousiasme délirant.
C'est exactement ça. C'est surtout une refonte esthétique de Windows 10. Le design est plus moderne, plus épuré, inspiré de ce qu'on voit sur macOS et ChromeOS. Il intègre plus profondément Microsoft Teams et plus récemment l'assistant d'IA Copilot.
Et la critique principale?
La principale critique, cette fois, n'a pas porté sur l'interface, mais sur les exigences matérielles très strictes.
Ah oui.
Ça a rendu des millions d'ordinateurs, même assez récents, incompatibles.
Et il y a un petit détail que j'adore, un clin d'œil à l'histoire. Par défaut, dans Windows 11, les icônes de la barre des tâches et le menu démarrer sont centrés. C'est un hommage direct à la toute première version Windows 1.0.
La boucle est bouclée, en quelque sorte.
C'est ça. En résumé, ce voyage à travers l'histoire de Windows, c'est vraiment l'histoire d'une entreprise au sommet, mais qui semble incapable d'éviter de trébucher à intervalles réguliers.
Totalement. Des sommets de domination avec XP et Windows 7, suivis par des échecs cuisants, presque humiliants avec Vista et Windows 8.
C'est ça. On observe clairement ce cycle dont on parlait au début. Un bon, un mauvais.
Exact. Une alternance qui a longtemps défini la perception de Microsoft par le public. La source le note bien. Cette réputation est devenue tenace, au point que les gens attendaient presque le prochain ratage après un grand succès.
Et c'est ce qui nous amène à notre pensée finale. cette réputation de sortir un système d'exploitation valable sur deux a collé à la peau de Microsoft pendant 20 ans. Aujourd'hui, avec l'intégration massive de l'intelligence artificielle comme copilote et un modèle de mise à jour continué, on peut se demander est-ce que ce cycle historique est enfin brisé? Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de stabilité et d'amélioration constante?
Ou est-ce que la prochaine grande rupture technologique, quelle qu'elle soit, nous prépare simplement le prochain Windows Vista ou le prochain Windows 8 sous une forme qu'on n'imagine même pas encore?
Une question à méditer.